Raison gardée, une émission proposée par la Libre Pensée de Meurthe-et-Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission Raison gardée. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Dominique Gousseau, qui est vice-président de la Fédération nationale de la Libre Pensée. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Bonjour, merci vraiment de prendre un peu de temps pour nous aujourd'hui. Est-ce que je peux te laisser te présenter un peu plus longuement? Quel est ton parcours et comment devient-on vice-président de cette Fédération nationale de la Libre Pensée?
Alors, d'abord, j'ai exercé comme fonctionnaire pendant plus de 40 ans. Maintenant, je suis retraité. Il y a plus de 30 ans que je suis membre de la Fédération nationale de la libre pensée et je suis élu à la commission administrative nationale depuis au moins 15 ans et je suis le vice-président depuis 2015 ou 16, enfin un des trois vice-présidents. Voilà. Par ailleurs, je suis responsable de la Fédération départementale des Hauts-de-Seine, puisque c'est la Fédération nationale fédère des fédérations départementales. Et enfin, je suis le responsable de la commission droit et laïcité, donc qui suit tous les contentieux qu'on peut engager contre des décisions administratives, notamment en matière de présence de signes religieux sur des emplacements publics. Et je suis également les textes qui nous intéressent plus particulièrement, en ce qui concerne notamment la bioéthique, les fusillés pour l'exemple, les libertés démocratiques, etc. Voilà.
Les libertés démocratiques, il y a peu le Conseil constitutionnel a émis son avis sur la loi Darmanin. Qu'est-ce que tu penses des décisions qui ont été prises?
Alors, je n'ai pas encore lu entièrement une décision qui est très longue. Ce que j'en retiens quand même, c'est qu'on a invalidé un tiers, grosso modo, des 80 et quelques articles de la loi sur un seul motif, sauf exception, celui du caractère de cavalier d'un certain nombre de dispositions qui avaient été votées. Cela, évidemment, ne présume en rien de la conformité ou pas à la Constitution de ces dispositions, dans la mesure où c'est uniquement sur sur la procédure que le Conseil s'est prononcé. Il a soigneusement évité de se prononcer sur le fond. Voilà. Pour ce qui nous concerne, d'ailleurs, nous, on est favorable au retrait de la loi Darmanin, amendée ou pas, puisque même si dans les deux tiers des articles qui sont maintenus, il y a des dispositions qui restent contestables et dans la mesure où elles mettent en cause le droit même des étrangers à vivre dans notre pays de façon digne. Voilà.
Oui. On peut rappeler pour nos auditeurs que l'expression cavalier législatif, c'est une manière de dire que profitant d'une loi, on pour couvrir plusieurs types de personnages, mais on tente d'instituer des règles qui ne sont pas directement reliées en fait à ce que sont les objectifs de cette loi. Donc effectivement,
absolument. Ouais. Il s'agit d'introduire par la bande des dispositions étrangères à l'objet de la loi. Voilà, c'est ça. Voilà.
Une loi indigne, en plus amenée de façon un peu malhonnête aux yeux du droit.
Oui, mais bon, ça c'est la politique, c'est pas juridique.
Alors, tu l'as dit, tu es vraiment un spécialiste du droit, et puis nous dans la fédération, on te connaît bien aussi parce que tu fais partie des représentants de la fédération, justement fréquemment invité auprès des élus à l'Assemblée nationale notamment pour émettre des avis, partager des analyses qui sont celles de la fédération, de notre association de la libre pensée qui est reconnue depuis fort longtemps pour plusieurs des combats que tu as rappelé tout à l'heure, hein, notamment la question de la laïcité, la bioéthique, etc. et la question de l'école. Et j'ai vu que tu avais été invité encore dernièrement, à la fin de l'année dernière, que tu l'avais été aussi au printemps. Ça t'arrive très souvent d'aller comme ça exprimer nos analyses à l'Assemblée ?
Alors, depuis, si on remonte dans les 4-5 dernières années, on a été sollicité 5 fois pour aller à l'Assemblée nationale. La première fois, c'était en 2019 pour parler de la loi, du projet de loi de bioéthique. Alors à l'époque, nous on avait soutenu qu'il fallait libérer totalement la recherche sur l'embryon, qui est actuellement encore très encadrée et qui est un frein à cette recherche en France, ce qui est moins vrai dans certains autres pays. Et puis pour exprimer notre appui à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Et enfin, nous avons soutenu que nous étions favorables, et nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs, à une gestation pour autrui altruiste. Voilà, ça c'est une des 5 fois. On est allé à 2 reprises à la commission de la défense nationale de l'Assemblée et du Sénat à propos de la proposition de loi tendant à réhabiliter les fusillés pour l'exemple de la Grande Guerre, qui est un vieux combat de la libre pensée. D'ailleurs, nous avons largement contribué à la rédaction du texte qui a été voté, et qui finalement a été repoussé au Sénat en deuxième lecture. Et donc nous sommes allés à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat en 2021 et 2022 sur ce sujet. Effectivement, nous avons été entendus récemment à 2 reprises sur les questions scolaires. D'une part, il y a eu une commission ou une mission d'information, je ne sais plus, tendant à établir le bilan de la loi de 2019 pour une école de la confiance. Et plus récemment encore, nous avons été entendus par la mission d'information sur le financement public de l'école privée. Alors, pour ce qui est du bilan de la loi de 2019, on a soutenu les quelques points importants. D'une part, que ça favorise essentiellement l'enseignement catholique, qui représente 97% des écoles privées, dans la mesure où la loi ramène de 6 à 3 ans l'obligation scolaire. En réalité, tous les enfants de moins de 6 ans vont à l'école en France, à quelques exceptions près, mais le fait de baisser l'âge de l'obligation scolaire entraîne une obligation de payer les enseignants et oblige les communes à financer les autres frais de l'enseignement élémentaire. Donc ça a été un petit avantage supplémentaire pour l'enseignement catholique. Théoriquement, l'État a compensé cette charge supplémentaire pour les communes, mais en réalité, il a pris en compte des évolutions démographiques divergentes entre l'enseignement primaire et l'enseignement préélémentaire, qui ont fait que la compensation a été réduite à sa plus simple expression. Deuxième aspect de la loi que nous avons souligné, c'est que pour ce qui est de la laïcité, interne aux établissements, elle va au-delà de la loi de 2004 hein, qui interdit le port de signes religieux ostensibles, ce qui veut dire que les signes discrets sont autorisés, dans la mesure où elle stigmatise la loi de 2019 les comportements des élèves. Donc les comportements, c'est assez bas. C'est assez vague, alors qu'un signe religieux, c'est quelque chose assez qui reste encore objectif, même s'il y a une discussion possible sur l'importance ou la discrétion de ce signe. Troisième aspect de la loi que nous avons dénoncé, c'est le fait qu'elle livre les jeunes de 16 à 18 ans au centre d'apprentissage, parce que donc il y a une mesure pour les très jeunes et une mesure pour les 16-18 ans. Hein, et ça correspond à la politique consistant à développer l'apprentissage, le nombre d'apprentis a explosé. De 2019 à 2021, ça a pratiquement doublé. On a souligné deux points. D'une part, cette loi diffuse une idéologie nationaliste, qui est quand même très nouveau dans l'enseignement public français. Même du temps de Jules Ferry, alors que tous les gouvernements regardaient la ligne bleue des Vosges, pas loin de Nancy, il n'y avait pas de surenchère nationaliste dans l'enseignement. Et puis, elle instaure, alors c'est marginal, mais significatif, des établissements publics locaux d'enseignement international qui ont la particularité de mêler le premier et le second degré. Alors, il y a la Ligue de l'enseignement, on trouve ça plutôt pas mal. Nous, on est plutôt pour le respect des cycles d'enseignement, premier degré, second degré, enseignement supérieur. Voilà. Alors, pour ce qui est de la mission d'information sur le financement public de l'enseignement privé, c'est un de nos chevaux de bataille depuis les 1960.
Est-ce que tu peux juste nous rappeler la différence entre enseignement privé et enseignement privé sous contrat?
Alors, en fait, il y a trois types d'enseignement, voire quatre. Il y a l'enseignement public, qui est ouvert à tous, et qui, dans la mesure où il est gratuit, laïque et obligatoire, évidemment, il n'y a aucune espèce de connotation religieuse ou philosophique. L'enseignement public se borne à enseigner les connaissances scientifiquement établies ou les œuvres qui marquent notre histoire.
Conformément
Par
à un programme.
Il y a un enseignement privé où il y a deux types d'enseignement. L'enseignement privé sous contrat, c'est-à-dire que l'établissement pour certaines classes ou pour toutes les classes, passe un contrat avec l'État qui entraîne des avantages considérables puisque les enseignants des établissements sous contrat sont rémunérés par l'État dans les mêmes conditions que les enseignants du public et que par ailleurs les collectivités territoriales, selon des modalités un peu différentes en fonction du degré d'instruction concerné, finance les dépenses pédagogiques, dirais-je, ou de fonctionnement. Reste seulement à la charge des parents, d'élèves, ce qu'on appelle les dépenses liées au caractère propre de l'enseignement, de l'établissement, hein, s'il est catholique ou pas. Alors c'est d'autant plus... Alors, pour la France entière, ça représente 12 milliards d'euros par an, dont plus de 8 milliards au titre de la rémunération des personnels par l'État, 8-9 milliards. Et donc, c'est considérable. Alors même que ces établissements n'ont pas les contraintes de l'enseignement public. Théoriquement, ils doivent recevoir tous les élèves, mais dans la pratique, ils choisissent les élèves qu'ils acceptent, dans la mesure où il y a plus de demandes d'entrée dans ces établissements que de places disponibles. Et deuxièmement, ils ne sont pas soumis à la carte scolaire. Et donc, sans les contraintes de l'enseignement public, ils en ont tous les avantages financiers. Et donc ça, depuis 1960, la libre pensée demande l'abrogation de la loi Debré de 1959. Et puis il y a un troisième type d'enseignement en établissement, c'est l'enseignement privé hors contrat, qui est donc entièrement payant. Les familles placent leurs enfants dans ces établissements et à titre, et notre association est tout à fait favorable à la liberté de l'enseignement, c'est-à-dire que les familles puissent choisir ou l'enseignement public ou l'enseignement privé, hein, dans la mesure où la liberté de l'enseignement est un aspect de la liberté de conscience des personnes, hein, garantie par la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. Et donc on est tout à fait favorable à la liberté de l'enseignement. À ceci près que cette liberté, elle a un coût pour ceux qui choisissent l'enseignement privé. Et nous disons, les fonds publics vont à l'école publique et les fonds privés doivent aller à l'école privée. En aucun cas, des fonds publics ne peuvent aller soutenir l'enseignement privé, selon nous. D'ailleurs, d'une certaine façon, c'est brider la liberté de l'enseignement en acceptant des contraintes de l'État qui finance les établissements sous contrat. Et puis il y a un dernier mode d'instruction des élèves, c'est l'enseignement à domicile. Et la loi Ferry de 1882 était tout à fait libérale sur ce plan-là, sous réserve de respecter un certain nombre d'obligations d'enseignement pour s'assurer que tous les enfants reçoivent la même instruction. Et la loi séparatisme du 24 août 2021 a restreint d'ailleurs cette liberté de l'enseignement en limitant l'enseignement à domicile au seul cas de maladie, de handicap, etc. Voilà.
D'accord.
Donc voilà ce que nous avons dit à cette mission d'information sur le financement public de l'enseignement privé. Alors, cette mission d'information, d'ailleurs, a relevé des éléments tout à fait intéressants sur lesquels on n'avait pas d'informations précises. En particulier, il s'avère que le financement public de l'enseignement privé sous contrat entraîne théoriquement des contrôles de la direction des finances publiques dans la mesure où des fonds publics sont investis dans ces établissements, pour vérifier que l'emploi des sommes attribuées est bien conforme au cahier des charges, si je puis dire, de l'enseignement public sous privé sous contrat. Et il s'avère que ces contrôles sont quasi inexistants, de même que la publication des comptes est quasiment inexistante alors qu'elle est obligatoire, et ça je l'ai vérifié. Voilà. Voilà ce qu'on a dit à peu près à cette mission d'information, et l'un des éléments qui nous ont été apportés par cette rencontre qui date d'il y a quelques mois. Voilà.
Une mission d'information de ce type. Ah pardon. Une mission d'information de ce type a vraiment un pur objectif informatif pour les élus.
Pur objectif informatif, mais évidemment, j'imagine que l'idée, c'est quand même de ne pas laisser ce rapport sans suite. Donc le rapport sera disponible pas en février, mais en mars. Donc les rapporteurs, c'est Monsieur Paul Vannier de la France Insoumise et un autre député dont le nom un peu compliqué m'échappe, qui est de la majorité Renaissance, majorité relative, bien sûr. Mais c'est visiblement M. Paul Vannier qui est à la manœuvre, si je puis dire.
D'accord. Alors, pardon, je t'ai interrompu, tu voulais apporter une précision.
Oui, je veux dire, la dernière audition à laquelle on s'est rendu au cours des dernières années, là, c'est celle on s'est rendu à une invitation de l'observatoire, du défunt observatoire de la laïcité, qui était présidé par Jean-Louis Blanco, donc en 2020. Et donc, de toute façon, on avait d'accord avec cet observatoire installé auprès du Premier ministre à l'époque. Et donc, cette rencontre n'a fait que valider le fait que nous étions parfaitement sur les mêmes orientations, la fédération et l'observatoire. Voilà.
Observatoire de la laïcité, donc, qui a été dissous, et Jean-Louis Bianco et d'autres.
Remplacé par une question, voilà. Dont on ne sait pas trop ce qu'elle fait.
Bon. Oui. Et donc, voilà. Ceux de l'Observatoire ont créé la vigie de la laïcité.
Alors, ceux qui, donc notamment Jean-Louis Bianco, un peu écarté de sa mission officielle, a pris l'initiative, avec d'autres, de créer la vigie de la laïcité, que nous soutenons tout à fait fermement. Et donc sont partie prenante des universitaires pour l'essentiel, et dans lequel le président de notre institut de recherche, parce que la Libre Pensée est un institut de recherche indépendant, mais donc le président de notre institut de recherche et d'études sur la Libre Pensée, Jean-Marc Schiappa, est membre de la vigie de la laïcité. Et donc, les personnes influentes, là, c'est Jean-Louis Bianco, Jean Bobéro, qui est un grand spécialiste des questions de séparation entre l'Église et l'État, qui a beaucoup travaillé comme historien sur ce sujet. Il y a Philippe Portier, etc.
D'accord. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de ne pas parler de certaines affaires qui font la une de nos médias, justement par rapport à l'école et à l'enseignement privé sous contrat, et les liens entre l'instruction et la religion? Je pense bien sûr à deux affaires, disons. Il y en a une qui a un peu effacé l'autre, et j'aimerais avoir ton analyse et ton avis là-dessus. Il y a eu d'abord un lycée, le lycée Averroès à Lille, un lycée où sont accueillis des donc privés sous contrat, mais tu vas peut-être me dire si je me trompe, là j'ai un doute. Et il avait été pointé dans cet établissement des sortes de dysfonctionnements. Et puis, le préfet, je crois, avait annoncé qu'il allait sans doute retirer l'agrément d'association avec l'État. Et puis, cette affaire-là a été un peu estompée par l'affaire du lycée Stanislas, un lycée dont on avait déjà entendu parler, donc un lycée privé sous contrat, qui accueille essentiellement des enfants de familles qui se déclarent catholiques, mais pas seulement. Et si on a parlé beaucoup de ce lycée, c'est parce qu'on a appris que la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, y a scolarisé ses enfants. Alors c'est une histoire à épisodes multiples. D'abord, elle a accusé l'école publique d'être déficiente en expliquant que c'était la raison pour laquelle elle avait mis son enfant dans cet établissement. Et puis ensuite, on a appris que ce lycée avait été l'objet d'un rapport que Mediapart a révélé, et qui pointait effectivement, à partir de témoignages, mais aussi de l'analyse de ce que l'inspection générale a pu voir sur place, a pointé effectivement des problèmes par rapport au respect du contrat d'association qui engage ce lycée avec l'État. Est-ce que toi tu as pu regarder de près ces deux affaires, et qu'en pense la Libre Pensée?
Alors, quand on s'est rendu à l'audition de la mission d'information sur le financement public de l'enseignement privé, on avait rappelé que le collège-lycée Stanislas avait fait l'objet depuis assez longtemps et à plusieurs reprises d'observations concernant la manière de fonctionner, sa manière de fonctionner. Il y avait même eu, je pense ne pas me tromper, dans le passé, des soupçons de mauvais traitements envers les élèves. À tel point qu'une la direction de l'établissement à l'époque, je crois, avait été obligée de quitter les lieux et une autre direction était venue. Là, le Mediapart signale qu'un nouveau rapport est intervenu et que les dysfonctionnements persistent, notamment en ce que l'enseignement religieux déborde sur l'enseignement obligatoire et qu'il n'y a pas de mixité complète des classes, etc. Donc, nous, on avait signalé ce cas-là à la mission d'information. Je pense que l'affaire Averroès est en fait un contre-feu à cette histoire Stanislas, qui d'ailleurs a été déclenchée par le préfet avant même que Mediapart, si je ne me trompe pas dans la chronologie, ait publié le rapport sur Stanislas. Donc, l'idée, c'est de dire... les établissements musulmans sous contrat, il y en a très peu, sont des repères de salafistes très dangereux pour la République, de manière à évacuer le fait que les établissements catholiques peuvent eux aussi poser des problèmes de séparatisme, pour reprendre le,
à mon cher à Macron.
La terminologie officielle. Donc, voilà ce que j'en pense. Par ailleurs, il faut signaler que des établissements hors contrat catholique, et j'ai en mémoire une histoire, c'est dans l'Indre, je crois, d'un établissement qui a racheté un terrain militaire pour construire un nouvel établissement, mais... à l'époque, on a mis en évidence que les élèves étaient très maltraités avec des problèmes de mauvais traitements sur le plan physique, etc. Voilà. Donc, il y aurait beaucoup à dire sur ce plan-là. Autre aspect du lycée Stanislas, c'est que, au fond, il est l'illustration de ce que a dénoncé la Cour des comptes récemment dans un rapport public thématique de juin 2023, si je ne me trompe. Et cette critique de la Cour est la suivante. L'État finance des établissements privés sous contrat, pour l'essentiel catholique. Or, ces établissements, au lieu de contribuer à promouvoir l'égalité des chances, qui est un des objectifs du préambule de la Constitution de 1946, c'est toujours à rappeler, en réalité, leur activité a pour effet d'accroître les inégalités entre les élèves. Et ça, c'est un argument, me semble-t-il, très fort. C'est-à-dire que le financement public des établissements privés qui est équivalent à celui accordé aux établissements publics, finalement conduit à aggraver les inégalités sociales au lieu de les résorber. Et donc, c'est quand même assez grave.
Oui, on est très loin des objectifs.
Pour ce qui est du lycée Averroès, dernier point, je crois ne pas me tromper en disant que des rapports de l'inspection académique, enfin ça s'appelait plus comme ça, avait fait l'éloge de l'établissement qui a de très bons résultats scolaires, ce qui est vrai aussi
du lycée Stanislas,
mais il n'avait pas souligné de dérives religieuses ou quoi que ce soit dans pendant les cours. Voilà. Mais le préfet a décidé, à mon avis peut-être pas de sa seule initiative, de lancer une opération contre Averroès parce que, évidemment, c'est un peu un contre-feu par rapport aux affaires de Stanislas qui ont pris une ampleur qui n'était pas prévu au départ, hein, mm-hmm. parce que l'idée c'était de quand même cacher ça sous le tapis, du fait des maladresses de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Mmh. Qui...
On la remercierait presque pour cela. Au moins, les choses sont sorties.
Oui, mais bon, elle est maladresse. Maladresse, d'ailleurs, qu'elle enfile comme des perles, si je puis dire. Hein, parce que, bon, c'est une... elle est la même promotion de l'ENA que Macron. Bon, on se demande comment elle a fait pour en arriver à dire autant de bêtises. Mais bon, c'est comme ça.
Merci beaucoup Dominique, une demi-heure, c'est vraiment trop court. Nous avons pu entendre cette analyse que tu portes pour la Fédération. Vraiment un très grand merci à toi d'avoir pris de ton temps. Et je vous dis à tous, à très bientôt sur Raison Gardée, sur RCN. Au revoir Dominique.
Au revoir.